Nancy célèbre actuellement Jean Prouvé, architecte et designer du XXe siècle, mondialement reconnu. Le Forum des Jeunes fait sa rentrée aujourd'hui sur Fadjet et RCF Jéricho sur le thème du design. Qu'est-ce qu'un designer? Qui sont les designers d'aujourd'hui? Comment devient-on designer et pourquoi? C'est le programme de notre émission. Bonjour à tous, c'est Lionel Pierrot pour le Forum des Jeunes sur RCF Jéricho et Fadjet. J'ai invité aujourd'hui trois étudiants en design. Je vous propose de vous présenter à tour de rôle tout de suite.
Alors bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis étudiant en design de produits au Loris, comme mes camarades, et je viens de près de Strasbourg.
Moi c'est Paul Valentin, je viens de près de Metz on va dire. Et je suis aussi en deuxième année de BTS design de produits.
Et moi, je suis Camille, je viens de Nancy, comme les garçons, dans la même classe.
Alors, ce que je vous propose, c'est que nous ayons une petite discussion autour du design. On va, en trois étapes, parler des expos autour de l'événement Jean Prouvé 2012. Ensuite, des questions un peu plus personnelles sur votre parcours, le parcours passé et surtout le parcours à venir sur votre route vers le design. Et puis enfin, un regard un peu plus large sur le design français. Donc on va commencer par l'événement Jean Prouvé 2012. Vous savez que il est à l'honneur à Nancy actuellement jusqu'au 28 octobre. Un parcours découverte dans les rues du Grand Nancy, des expositions permanentes, expositions temporaires. Avez-vous participé à ces parcours et ces découvertes?
On est tous un petit peu sur le qui-vive parce que ça nous intéresse beaucoup. Moi, pour ma part, je me suis rendue au Musée des Beaux-Arts pour l'instant, pour l'exposition qui va durer, je crois, si je ne me trompe pas, un peu plus longtemps que jusqu'au 28 octobre.
Oui, puisque effectivement, au Musée des Beaux-Arts, il y a une exposition permanente donc qui va se poursuivre après l'arrêt de l'événement Jean Prouvé 2012.
Voilà, et elle propose un parcours assez intéressant sur l'explication de qui est Jean Prouvé et ce qu'il a pu faire, puisque c'est quelqu'un d'intéressant et dans le paysage nancéen. Et puis, je me suis rendue aussi à la Galerie Poirel, qui propose une exposition qui s'appelle « Émotion Design », et qui, là, va être un petit peu plus large et nous présenter une collection privée du fondateur de Vitra. Et voilà, on y voit plein de choses très intéressantes sur le design, et c'est un bel éventail de ce qui peut se faire et ce qui s'est fait.
Mmh. Rappelez-nous, vous avez dit fondateur du Vitra.
Voilà, donc Vitra, c'est une entreprise de design qui se trouve en Allemagne. Oui. Et qui réédite encore aujourd'hui beaucoup de meubles de designers. Donc c'est un site qui se trouve juste à la frontière, qui n'est pas loin d'ici et qui est très intéressant d'aller voir.
Donc aux Galeries Poirel, on a bien dit exposition temporaire, donc jusqu'au 28 octobre. On y voit donc des objets, oui. Des objets de l'habitat, de l'intérieur.
Des objets, beaucoup de mobilier, beaucoup de maquettes d'architecture aussi. Et certaines fois, on voit des œuvres d'artistes. Tout ça fait partie d'une collection privée, donc c'est assez subjectif, mais c'est très intéressant.
Mmh. Valentin, quelle est ta participation à l'événement?
Nicolas et moi, on a eu l'occasion d'aller, pas plus tard qu'hier, à la visite de la maison de Jean Prouvé à Maxéville.
Oui, donc ça, c'est une des 12 étapes du parcours Jean Prouvé dans les rues du Grand Nancy.
Et j'invite toutes les personnes qui peuvent y aller à s'y rendre. Il me semble qu'il y a une visite qui est donnée tous les jours de la semaine, sauf le mardi, entre 17h et 18h. Une visite guidée, donc. Il y a l'occasion donc de voir la maison de Jean Prouvé, mais aussi son atelier de travail.
D'accord. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la maison de Jean Prouvé? Pourquoi ça vaut le coup de s'y rendre?
Eh bien, je veux dire, c'est quand même une maison qu'il faut à tout prix voir en tant que designer ou alors futur architecte, parce qu'elle est très innovante pour l'époque de sa construction, tant au point de vue d'écologie que de standardisation, excusez-moi. Oui. Et lorsqu'on y rentre, on a une superbe vue sur la ville de Nancy et... c'est vraiment quelque chose à voir.
Ouais, on est dans une construction qui date juste à l'après-guerre où le besoin au niveau de l'habitat était très fort.
Tout à fait. La construction a été faite, il me semble, en 1954. Mmh. Et oui, tout de suite après la guerre, il y avait un gros besoin de construction. Et puis on a pu voir que même Jean Prouvé, sa propre maison a été faite avec des blocs standardisés de maisons, on va dire.
Il avait expérimenté pour son propre habitat, donc.
Tout à fait. Mais il a dû créer aussi des maisons d'après-guerre, des habitats d'urgence. Donc, ça, il a créé après sa propre maison sur ce même modèle.
Tout à fait.
Et Nicolas, dans le cadre de l'événement Jean Prouvé 2012.
Comme pour Valentin, on est allé visiter la maison. Donc, pour une maison de 1954, elle était assez révolutionnaire. Parce que c'était finalement comme un jeu de Lego, c'est un emboîtement de pièces qu'il a dû se débrouiller avec ce qu'il a pu prendre. Et la façon dont la maison est aménagée est assez intéressante, et les volumes des pièces, les unes par rapport aux autres, on voit qu'ils donnent des priorités à la pièce de vie plutôt qu'aux chambres, parce que finalement c'est là qu'on passe la plupart du temps. Donc voilà, et tout en jouant sur l'ergonomie des objets, des pièces, c'est assez intéressant.
Bien. Donc jusqu'au 28 octobre, vous pourrez ensuite vous rendre également au musée de l'histoire du fer à Jarville. Vous pourrez également voir les expositions temporaires au musée de l'école de Nancy, où on présente Jean Prouvé le ferronnier. Et puis également une exposition temporaire au musée Lorrain, où là on présente le côté humaniste de Jean Prouvé, pour compléter votre formation. Ben c'est très sympa de nous présenter les expositions actuelles. Vous qui êtes dans un cursus scolaire de formation pour devenir designer, alors justement la question que je voulais vous poser de façon un peu plus pratique, comment on devient designer? Et puis peut-être de façon plus ouverte, qu'est-ce qu'un designer? On peut-être commencer par, peut-on définir un designer? Qui est-ce qui se lance?
Je pense que c'est Camille. Un designer, on est à la fois à la frontière entre le domaine artistique et le domaine technique. Je pense que c'est ça qui nous plaît avant tout, parce qu'on n'est pas considéré comme des artistes et on n'a pas forcément envie de l'être. Mais on touche aussi à des domaines très techniques, puisqu'il faut savoir créer une pièce, mais savoir comment la créer, toucher à tout ce qui est ergonomie et...
Alors quand on dit une pièce, on n'est plus là du tout dans l'habitat, il s'agit d'une pièce, par exemple d'un meuble ou d'un objet de tous les jours.
Voilà, le design produit, c'est un domaine qui est très vaste, parce qu'on crée, tout a été designé. Donc si vous prenez un verre d'eau, il y a quelqu'un qui est derrière et qui l'a pensé, qui l'a réalisé, qui a choisi son matériau et sa forme.
Alors la difficulté de celui qui... imagine, qui pense le verre d'eau, si on continue avec cet exemple-là, c'est que il peut pas laisser libre cours à son imagination. À un moment donné, il est stoppé par la réalité industrielle, la manière de le réaliser.
Voilà, on est bridé par un certain nombre de contraintes, notamment de commandes, puisque le designer, en général, ne fait pas des choses pour lui. Il a des commandes, il a des besoins auxquels il doit répondre. Et nous, c'est ce qu'on nous apprend à écouter, écouter ses contraintes et mettre sa patte personnelle, mais tout en laissant les contraintes prendre la plus grosse partie du travail.
Valentin et puis Nicolas, vous êtes d'accord avec la définition
tout
que...
Tout à fait, je pense que la principale idée qu'on doit garder à l'esprit, c'est de rester fonctionnel dans l'esprit et dans la forme de l'objet, l'aspect formel, mais aussi toujours rester pratique.
Est-ce que dans le futur métier que vous aspirez à exercer, c'est le côté justement échange, puisqu'on voit bien que le designer, il peut pas travailler tout seul dans son bureau, mais il est forcément en relation avec le fabricant, avec celui qui fournit les matériaux, avec celui qui va donc produire. Est-ce que c'est ce côté-là qui vous intéresse?
Eh bien, le designer, on va dire que c'est celui qui se retrouve à la croisée de tous les chemins, on va dire autant artistique que technique. Il doit pouvoir être à l'écoute du client, mais aussi à répondre à tout ce qui, au point de vue commercial et de la constructivité. Il faut être ouvert et puis savoir répondre au mieux avec toutes les contraintes qui nous sont imposées.
Vous le voyez comme la clé de voûte de l'édifice.
On peut dire ça.
Ouais. Alors, pour devenir designer, il y a donc des écoles. Vous nous avez dit, vous êtes en BTS design de produits. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver jusque-là? Et puis ensuite, peut-on continuer? Est-ce qu'on est designer quand on est possesseur, quand on a en poche un BTS? Nicolas.
Après le BTS, on peut faire soit une licence, soit un DSA, diplôme supérieur des arts appliqués, ou même rentrer dans une école et refaire 5 ans dans une grande école. Mais je pense qu'il faut savoir qu'avant le BTS, il faut faire soit une mise à niveau, une sorte de prépa en art, une mise à niveau, ouais, en art appliqué, pour rentrer dans ce BTS, c'est spécifique, ou un bac STI art appliqué. C'est les deux principales conditions pour rentrer en BTS design de produit.
D'accord. Et bon, on peut imaginer que tous les jeunes qui nous écoutent, s'ils ont envie de passer par là, ils peuvent aller se renseigner dans les centres d'information et d'orientation. Mais quel est votre parcours aux uns et aux autres ?
Alors, j'ai passé, moi, un bac S, tout simplement parce que c'est celui qui ouvrait le plus de portes pour confirmer mon choix à cause du temps. Et par après, j'ai fait une année de fac. Parce que je savais pas vraiment comment faire pour devenir designer, je m'étais pas assez renseigné. Et au final, à la fin de cette année de fac, je suis rentré en mise à niveau au Lauritz et j'ai continué avec un BTS design de produit. Donc aujourd'hui, où je suis en deuxième année.
Très bien. Et Valentin ?
Eh ben, moi, j'ai commencé par un bac STI génie mécanique. Et puis au cours de l'année de ma première, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je voulais faire de ma vie. Et je me suis tout simplement renseigné dans un centre de documentation et d'information. Et j'ai appris qu'il existait une mise à niveau en art appliqué ici à Nancy, au lycée Henri Lauritz d'ailleurs. Et j'ai intégré cette classe, donc une mise à niveau en art appliqué durant un an. Et j'ai ensuite intégré le BTS Design de produits. Et me voilà en deuxième année.
Ouais, donc comme le disait tout à l'heure Camille, vous êtes à la frontière entre l'art et la technique. Donc la classe de mise à niveau, c'est pour vous permettre d'avoir un bagage du côté des arts appliqués. Donc.
Tout à fait.
Et Camille, parcours ?
Moi, un petit peu pareil que les garçons, à la seule différence que moi j'ai fait un bac L, option histoire de l'art et art plastique. Donc un petit peu plus spécialisé. Mais j'ai dû passer quand même par la mise à niveau... parce que c'est obligatoire. Donc.
Très bien. Ouais. Alors ça, c'est votre parcours des années antérieures. Ensuite, après ce BTS, design de produits, quelles sont les possibilités ? On en a touché deux mots, mais quelles sont vos aspirations ou vers quelle voie vous voulez vous orienter, Nicolas ?
J'aimerais bien passer le concours et rentrer dans l'école de Paris, l'ENSI, l'école nationale supérieure de création industrielle, qui est assez poussée dans le design numérique et industriel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, cette école est la première école mondiale, et c'est la seule école qui offre cette formation aussi bien dans le design industriel que dans le design numérique.
Et Valentin ?
Bien, moi aussi, ça serait peut-être d'intégrer une grande école de design, l'ENSI ou autre, ou peut-être même voir, me rediriger peut-être vers l'architecture, je ne sais pas encore vraiment. Je suis encore assez ouvert sur...
À voir donc.
Voilà, à voir.
Il faut que le projet mûrisse. Et Camille ?
Oui, moi je rejoins un peu ce que dit Valentin, je pense que c'est... intéressant de coupler deux disciplines et je pense que l'architecture se mêle très bien au design et que bah, on l'a vu avec Jean Prouvé puisqu'il a fait à la fois des maisons et des meubles. Je pense que c'est deux disciplines qui jouent très bien ensemble et où on peut tirer beaucoup de satisfaction, donc peut-être une école d'architecture, mais on verra, on a encore l'année pour se décider.
Vous avez donc la chance d'être dans une filière qui vous permet justement de marier plusieurs disciplines et d'avoir plusieurs cordes à votre arc.
Disons que le design, c'est tellement vaste qu'on est 13 dans notre classe, mais il y a tellement de possibilités, on peut travailler à la fois dans l'automobile que dans le mobilier ou partir vers l'architecture. C'est vrai qu'on a beaucoup de possibilités, on a une chance énorme.
Et on verra peut-être tout à l'heure qu'effectivement, au niveau du travail que vous allez exercer, vous aurez peut-être la possibilité d'intégrer un bureau de design lui-même intégré à une grande entreprise, par exemple dans le domaine de l'automobile, ou alors travailler dans une agence de design indépendante et là répondre à des questions ou à des sollicitations de clients dans des domaines très varié, quoi.
Oui, exactement.
Je vous propose de faire une petite pause musicale. C'est Nicolas qui a choisi le titre. Il va nous présenter ce titre.
Alors, c'est un artiste qui s'appelle Tiem Duke, qui est un DJ. Il provient de l'album Forward de 2006, ça s'appelle Life, Wine and Fall.
Qu'est-ce qu'un designer? Qui sont les designers d'aujourd'hui? Comment devient-on designer et pourquoi? Donc c'est le programme de l'émission d'aujourd'hui. J'ai invité trois étudiants en design. Ils nous ont présenté leur parcours. Peut-être de façon plus ouverte, j'avais envie de leur poser la question. Est-ce que vous avez des maîtres en la matière ou en tout cas des designers qui pourraient être votre modèle? On commence par Nicolas.
J'ai quelqu'un que j'admire beaucoup qui a travaillé pour la firme Braun depuis le début, enfin Dieter Rams, qui est un designer allemand qui peut faire partie de l'école d'Ulm, qui est la suite, la continuité du Bauhaus finalement. C'est un designer qui se retrouve beaucoup dans les objets d'aujourd'hui. C'est en 1950 à peu près qu'il est rentré chez Braun. Qu'il a imposé sa marque, sa sobriété, son puritanisme, j'ai envie de dire, et qui, au final, se retrouve beaucoup dans les objets d'aujourd'hui.
D'accord.
Plus de 50 ans après.
Donc on peut taper sur un moteur de recherche, Dieter Rams, et puis on trouvera sur des images qui permettront d'illustrer ton propos. On est à la radio, hein, on est obligé de s'en contenter.
C'est des objets souvent connus, mais l'homme derrière, on le connaît pas. Donc.
Nicolas, tu as dit il est de Ulm, en Allemagne. Il se situe dans le prolongement du Bauhaus. Qu'est-ce que c'est le Bauhaus?
C'est une école qui avait pour but de marier l'artisanat à l'industrie.
En Allemagne, au début du XXe siècle.
C'est ça. Et voilà, dans la continuité, après la guerre, c'est l'école d'Ulm qui s'est beaucoup plus tournée vers l'industrie, dans la même logique que le Bauhaus.
Très bien. Quels sont les modèles pour Valentin ?
Eh bien, pour ma part, c'est aussi les différents instigateurs et personnages qui ont animé l'école du Bauhaus, donc au début du siècle dernier, et plus particulièrement Walter Gropius ou encore Marcel Breuer avec la chaise Vassili, par exemple. C'est un peu fou de se dire qu'il a eu l'idée d'utiliser l'acier cintré en utilisant son vélo. En fait, à la vision de son guidon de vélo Adler, à l'époque, il y a eu l'idée d'appliquer ce procédé de fabrication à un fauteuil. Et on voit encore ici tout le génie d'un designer qui est d'utiliser ce qu'il rencontre dans la vie et de l'appliquer à un objet au mieux.
Donc détourner la fonction d'un objet pour l'appliquer à un objet qui n'a pas du tout la même fonction,
par exemple.
En quelque sorte.
Au final, on ne réinvente plus rien, on ne fait qu'améliorer, je pense, l'objet. Ça serait traître de dire qu'un designer crée à 100% quelque chose. Ça existe déjà, mais on l'améliore, en fait.
Camille, au niveau d'un ou de deux designers,
je serais un peu comme les garçons à dire que, évidemment, il y a des gens qui nous passionnent parce qu'ils ont créé cette discipline que nous, on étudie aujourd'hui, et que je pense qu'il a fallu à la fois de beaucoup de réflexion et un peu de culot pour se lancer dans des défis comme ça. Mais pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, moi, j'aime beaucoup les architectes qui deviennent designers ou inversement. Et je citerai Frank Gehry, qui est un architecte designer américain et qui a fait beaucoup de belles architectures et qui s'est lancé dans le mobilier, qui a fait notamment une gamme de meubles en carton que je trouve hyper intéressante à voir et à travailler.
Serait-on dans le domaine de l'éco-design ?
On s'approche du domaine de l'éco-design qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui.
Alors pourquoi c'est une préoccupation d'aujourd'hui, l'éco-design ? Qu'est-ce que c'est que l'éco-design ?
C'est déjà parce que c'est un problème de société qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'écologie, d'économie de moyens, de préservation de la planète.
D'impact écologique.
Voilà, exactement. Et le designer doit aussi, c'est une contrainte supplémentaire qu'on doit aussi parfois s'appliquer, de se dire tel matériau est mieux que celui-là parce qu'il va respecter des normes écologiques. Donc effectivement, pour Frank Gehry, le carton recyclable à 100%.
D'accord, donc souci écologique au niveau du choix des matériaux, mais j'imagine aussi au niveau de l'utilisation du produit, peut-être de la fin de vie du produit.
Oui, et puis surtout de sa pérennité. Je pense qu'il faut forcément, quand on crée un meuble en carton, il faut qu'il soit solide et qu'il dure autant qu'un meuble qui soit en plastique. Et c'est beaucoup plus difficile, c'est des contraintes qui sont encore plus difficiles à respecter.
Merci pour les exemples que vous nous avez donnés, mais vous n'avez pas parlé de designer, vous n'avez pas présenté de designer français, je pense à celui dont tout le monde a le nom en tête, Philippe Starck. Pour quelle raison ?
C'est une très bonne question.
Merci.
Je pense que Philippe Starck, c'est celui, enfin, on s'en parle beaucoup entre nous, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle du fait qu'on fait du design, les gens me disent « Ah, tu fais comme Philippe Starck ». Oui,
c'est l'icône.
C'est une icône, forcément, on peut pas le nier. Après, il y a tellement d'autres designers, notamment en France et partout ailleurs. Mais en France, on a aussi des bons designers qui ont des travaux et qui ont une certaine réflexion et une vision de leur design qui n'est pas forcément aussi commerciale que celle de Philippe Starck.
Mmh. C'est l'avis de Nicolas aussi. Joker.
Non, mais je pense que Philippe Starck, c'est plus une machine à fric aujourd'hui qu'autre chose. Il pose son nom sur un objet, ça se vend. On enlève le nom, ça se vend plus. Enfin, c'est plus un designer industriel, c'est l'industrie du design. Enfin, c'est plus la même vision des choses. Il a créé son école, encore une fois, payante pour ramener de l'argent. Après, c'est un très bon communicant. Il sait faire, je pense, le show, il sait parler. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est pas forcément une icône. Peut-être dans le temps, mais plus aujourd'hui.
Et puis, c'est pas ce qu'on nous apprend, surtout. Ouais. Enfin, nous, notre vision du design, je pense qu'on est assez d'accord avec les garçons, c'est de dire que le designer doit avant tout s'effacer et qu'il est là pour répondre à des besoins qu'on lui soumet, mais certainement pas pour se mettre en avant.
Ouais, mais par exemple, il y a quelques mois, le centre Pompidou à Metz avait proposé une exposition sur les frères Broulet qui ont présenté leur création, des objets. Est-ce que c'était justifié ou est-ce que c'était pas justifié du tout de proposer une exposition sur les frères Broulet?
Eh bien, on a tous les trois eu l'occasion de pouvoir se rendre au centre Pompidou de Metz pour pouvoir voir cette exposition et je pense que oui, leur travail est justifié et... Il reste très intéressant, je veux dire, tant à l'aspect formel qu'à l'histoire qu'ils transmettent. Mmh. À la fois un mélange de végétal et de futurisme qui se combine très bien, je trouve.
Ouais, vous parlez justement des choix des designers, entre autres le choix au niveau des matériaux. On était dans l'éco-design, les matériaux écologiques. Est-ce que dans les travaux futurs que vous allez devoir réaliser dans le cadre de votre formation ou de votre métier, il y a des matériaux avec lesquels vous voudriez particulièrement travailler?
Je pense qu'on ne peut pas forcément, en étant designer, se poser sur un seul matériau. Chaque objet a une histoire, c'est à nous de la créer. Chaque objet a une utilisation particulière et du coup, il y a des matériaux qui s'y prêtent bien. On ne peut pas faire, en reprenant l'exemple du verre d'eau, on ne peut pas faire un verre d'eau en bois par exemple, mm-hmm. parce que ça n'a pas de sens et parce que c'est inutilisable.
Donc pour ne pas se fermer des possibilités d'activité, il ne faut pas se spécialiser dans un matériau.
On peut avoir un matériau de prédilection, je pense, je ne sais pas ce que les garçons en pensent. Mais...
Si, il y a des designers qui en avaient. Ron Arad, pour lui, c'était la feuille d'acier finalement. Il faisait tout avec une feuille d'acier, même des sièges. Bon, ça ne tenait pas trop la route, c'était assez particulier, c'était plus du domaine de l'artistique qu'autre chose. Mais moi, je suis d'accord avec Camille, finalement, il ne faut pas se restreindre à un matériau parce que même avec les procédés d'aujourd'hui, on ne peut pas tout faire avec n'importe quoi.
Mmh. Et pour pouvoir donner une image de ce que vous devez apprendre, des techniques que vous devez maîtriser, quels sont les principaux matériaux sur lesquels vous êtes censé pouvoir travailler?
A beaucoup de chance à Loritz d'avoir on a un atelier de fonderie, on a aussi des machines de prototypage rapide, un atelier de céramique, donc ça nous permet d'avoir un éventail de matériaux à utiliser qu'on peut tester nous-mêmes. Donc on a déjà travaillé sur pas mal de choses, notamment sur de la céramique. Mmh. On a fait aussi pas mal de prototypage rapide, donc du travail avec plus, enfin, des plastiques ou du bois.
Ouais.
Et
donc l'éventail est large.
L'éventail est très large, Aloïs.
Il est bientôt l'heure de se quitter. Peut-être une question à chacun d'entre vous, la même concernant le design français. Donc on en a déjà parlé, mais comment vous voyez dans le contexte de la mondialisation, des échanges entre les pays, comment vous situez le design français par rapport à la concurrence internationale? Question peut-être un peu plus difficile, Valentin.
Je pense que le design français a une qualité, une valeur qui n'est pas forcément très reconnue à l'international. Enfin, je veux dire, par rapport à tout ce qui est production qui se retrouve en Chine et tout ce qui est design un petit peu cheap, je pense que le design français devrait avoir une plus grande valeur aux yeux de tous que celle qu'elle a aujourd'hui. En tout cas, elle n'est pas très reconnue, je pense.
Nicolas ?
Ouais, enfin, pour Jean-Valentin, je pense, ouais, les designers français ont tendance à, pour être concurrentiels, à aller voir en Chine. Maintenant, le gros problème qui se pose aujourd'hui, c'est que la Chine, le Japon et tous ces pays-là commencent à eux-mêmes avoir des designers. Donc, au final, faut voir si on sera pas délaissé. Après, on remarque que l'industrie française va pas forcément super bien. Donc, ça peut être une raison pour laquelle ils vont voir là-bas, mais je pense que il faut pas s'arrêter à ça. Faut trouver des solutions, réfléchir pour rester en France et continuer les partenariats entre industrie, designer et...
Ouais, et Camille,
ouais,
quel est
exactement.
Ton sentiment?
Mais il faut aussi savoir que le design est à la croisée de beaucoup de disciplines, mais aussi du commerce et que le but d'un objet, c'est d'être acheté. Donc forcément qu'il y a cette caractéristique-là qui est à prendre en compte. Mais je pense qu'aujourd'hui, la French Touch est aussi quelque chose qui est vendeur et qui pourrait être pérenne aussi.
En tout cas, c'est bien que nos étudiants en design y croit à la French Touch. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission.
Merci,
merci à vous.
Au revoir à tous.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.